Bonjour. Bonjour, nous souhaiterions, puisque nous sommes plusieurs, savoir quelle est la position des autres patients face à vous, monsieur patient expert. Quelle est la réaction des autres patients, des groupes, comment ça se passe? Vous leur envoyez quoi comme image?
J'ai peur de pas très bien comprendre.
Vous êtes patient expert.
Ressources.
Vous êtes patient ressources, oui. Patient expert, c'est dans le diabète.
Personne n'est parfait.
Vous êtes patient ressources. Vous animez des groupes en binôme. Quelle est l'attitude des autres patients face à vous?
Alors, pour que les choses soient claires, à l'heure actuelle, on s'est fondé. Comment s'est mis en place le patient ressources? Et on est parti d'un constat. Un constat que la prise en charge des patients atteints d'hémophilie posait encore aujourd'hui des difficultés et le suivi de prise en charge n'est pas toujours efficace. Il y a des expériences qui ont été menées en région parisienne, dans la région du centre, en Pays de Loire, de présence de patients qui transmettaient leur expérience. Et le travail qui a été mis en place là, c'est de le modéliser. Et de le modéliser et de faire en sorte de former des patients ressources pour qu'ils puissent intervenir. Voilà. L'expérience non modélisée à ce jour, ce qu'on a pu recueillir comme matériel, c'est de se rendre compte qu'il y avait une immense légitimité pour ces patients pour parler, quel que soit l'âge. C'est-à-dire que des patients plus âgés transmettent leur expérience de manière positive en donnant, c'est-à-dire de leur pathologie, pas en faisant un tableau idyllique, mais en présentant à la fois les difficultés, mais que ces difficultés pouvaient à la fois se dire, se parler et se surmonter, eh bien, les patients voyaient un avenir. Le problème, c'est que pour des patients atteints d'hémophilie, mais comme beaucoup d'autres, ce sont des maladies de naissance, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que ce sont les autres qui en parlent, toujours. Là, c'est un patient qui en parle à d'autres patients. Et donc, du coup, ça prend un sens. Et surtout quand ce patient est plus âgé ou s'inscrit dans la même, ou même s'inscrit dans la même génération que l'autre. Donc, là, le travail qui a été mis en place, c'est justement de modéliser et de faire en sorte, justement, que ce mouvement soit reproductible, qu'on puisse, et que ça puisse être évalué ensuite. Voilà. Fondamentalement. Et les premières expériences ont été positifs. C'est bien pour ça qu'on a voulu la développer.
Pardon. Séduisant de vous écouter, mais ça pose beaucoup de questions. Le problème des limites du soignant-soigné, le patient qui projette ses angoisses, ses interrogations sur ce pseudo-animateur, je vais dire, patient ressource, j'ai l'impression qu'on va pousser ce patient à projeter de façon schizophrénique. C'est-à-dire, à qui s'adresse-t-il? Et quelles sont les garanties qu'on va lui donner de cette sécurité où il va pouvoir justement se laisser s'exprimer et... Quelle garantie il a? Qu'est-ce qu'il va recevoir en retour de ça? Le patient, le soignant, le soigné?
Vous êtes psychologue.
Il est quand même très fort hein, comme ressource. Hein.
Je pense que l'un des éléments, il y a un prérequis, de toute façon. C'est que la personne qui est patient ressource est une personne qui peut parler de sa maladie et qui en parle de manière positive. Ça, c'est, et qu'il, évidemment, qu'il soit volontaire pour le faire. Voilà. Ça, c'est un prérequis. Mais d'ailleurs, les personnes qui sont candidates et qui ont candidaté déjà pour l'être ont écrit des lettres absolument extraordinaire, justement, sur leur volonté de transmettre. De transmettre, au fond, à la fois leur parcours de vie, mais aussi leur parcours de vie positif, c'est-à-dire au-delà des difficultés. eh bien, ils veulent faire partager, au fond, ils veulent transmettre, en acceptant justement cette formation, ils veulent transmettre ce qui fait à la fois ce qu'il y a on se construit à travers une pathologie, mais on ne se construit pas qu'à travers ça. Et c'est aussi, ce sont des parcours d'hommes, et parfois de femmes, et du coup, ça crée la manière de se protéger, c'est que ces patients sont volontaires justement pour pouvoir enfin, j'allais dire, parler de la pathologie de manière constructive, alors que ça a toujours été parlé soit par d'autres et de manière extrêmement négative sur le terrain de l'hémophilie. Et c'est un formidable terrain d'échange justement entre professionnels de santé et patients. C'est une autre manière de construire justement la relation entre patients et soignants. Et c'est aussi, pour ceux qui reçoivent ça, une manière de, je le disais tout à l'heure, de voir l'avenir autrement. Alors, pour la protection, je pense que la supervision permettra évidemment de déceler d'éventuelles difficultés. Voilà. On n'est pas dans la certitude absolue. Il y a une part évidemment à la fois de pari. On pressent quand même des choses. Autrement, on n'aurait pas, de manière conjointe, on n'aurait pas fait ce travail. Mais s'il y a des difficultés, elles seront traitées dans le cadre justement de la supervision. Je ne sais pas si Claude Guéroy veut.
On a parlé de séances de débriefing et c'est vrai que quand on a écouté l'association des maladies inflammatoires intestinales, il y avait des patients qui ont expliqué justement que quand c'était trop difficile à vivre, les séances de débriefing étaient extrêmement positives pour eux. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait cet encadrement pendant la période où les patients sont patients ressources.
Une toute dernière question pour tenir le temps. Une question globale.
Oui. Il y a une question là-bas.
Excusez-moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez dit que le patient expert devait être bénévole. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il doit être bénévole forcément? Parce que je pense à des patients qui veulent intervenir, ils travaillent aussi. Et ces séances d'éducation, elles demandent du temps, de l'investissement. Et j'imagine que ça mérite aussi salaire. Et je ne comprends pas pourquoi elle doit être forcément bénévole.
Alors, je répète, ce sont des patients ressources. Ce ne sont pas des patients experts. Notre association a depuis toujours, elle existe depuis plus de 55 ans, a une tradition du bénévolat. Depuis toujours. Voilà. Notre association est quasi uniquement fondée sur des actions bénévoles. Et nous avons plus de 150 cadres au sein de notre association. Ce n'est pas dans la tradition de notre association de rémunérer les patients. Voilà. Si un jour la question se pose, on réexaminera cela. Mais pour l'instant, la question du bénévolat ne se pose même pas. Voilà. Et sur cette base de volontariat, de bénévolat.
Je voudrais poser une question sur la supervision, parce que je travaille dans une pathologie qui ne connaît pas encore l'éducation thérapeutique, s'il s'agit des blessés médulaires. Et l'APF a initié, là où je travaille, dans le service où je suis, donc des patients ressources, et se pose un petit peu, pour moi, la question de savoir un peu comment vous avez construit la supervision.
Alors, Je le répète, on vous a présenté là le cadre méthodologique tel qu'il a été travaillé par le groupe. Pour ce qui est ce qu'on a imaginé effectivement pour cette supervision, c'est on n'est pas allé dans le détail encore aujourd'hui de cette supervision. Elle se fera dans le cadre de ce travail justement en 2009, dans lequel on met en place les programmes de formation et dans lequel on envisage comment se fera cette supervision. Donc c'est en devenir. Voilà. Désolé.
Je suis désolé, on a vraiment des impératifs horaires.
Philippe, 10 secondes.
10 secondes.
Une remarque.
Alors, sans réponse.
Non, je voulais simplement faire il faut que je demande quelque chose quand même, parce que j'ai du mal un tout petit peu à voir le lien qu'il y a avec l'association. Alors, c'est vrai qu'en diabétologie, on a des personnes expertes qui est dans les associations, viennent dans les services et jouent un petit peu le rôle dont vous venez de décrire. Et la question que je me posais, c'était de me demander, mais est-ce que ça sera toujours dans le milieu hospitalier ou est-ce que ça sera externalisé éventuellement vis-à-vis de l'hôpital? Et quelle est la place de l'association en fait par rapport aux équipes médicales?
Les formations, les stages d'éducation sont faits en général en dehors, lorsqu'ils sont collectifs, sont faits en dehors du milieu hospitalier, avec des soignants hospitaliers, puisque c'est une maladie rare et que tous les soignants sont hospitaliers la plupart du temps. Mais c'est par contre les séances individuelles où l'association ne vient pas sont en milieu hospitalier. Voilà en gros la différence.
Bien, un grand, grand, grand merci. On pourrait encore discuter, je pense, une heure. Donc, c'est une petite graine de planter dans nos têtes et il faut la laisser pousser en respectant bien ce qu'on a entendu, c'est-à-dire, par exemple, les patients ressources. Et je pense que ça peut permettre aux soignants de réfléchir aussi aux ressources du patient. On va demander à Alain Gollet de venir se joindre à nous. Donc on va discuter maintenant sur l'art thérapie, puisqu'on a là les trois acteurs sur ce thème. Donc même chose, faites du bruit, comme on dit dans le showbiz, entre vous. Réfléchissez à quelques questions. Donc essayez de communiquer entre vous pour éviter qu'il y ait la même qui surgisse, ou qu'il y ait une question vraiment individuelle, mais concertez-vous. 2 minutes.
Juste un tout petit mot, comme la personne suivante, Aurore Biasini, n'est pas là, nous allons profiter du temps qui nous est laissé libre pour inviter nos amis de l'hémophilie à venir discuter en même temps, et on va élargir un peu la discussion autour de, je dirais très grossièrement, l'émancipation du patient, ou en tout cas, comment est-ce que les patients deviennent des patients ressources. Bien, on lance la discussion. Qui veut intervenir? Au fond.
Ça fonctionne là? Oui. Oui, je voulais vous demander, l'art-thérapie est une médiation qui est très utilisée dans le champ de la psychiatrie. Et il y a d'autres, dans ce champ-là, il y a d'autres thérapies qui sont utilisées aussi comme les thérapies cognitivo-comportementalistes, notamment pour les troubles des conduites alimentaires. Est-ce que ce type de thérapie peut être aussi transposé dans la prise en charge, dans l'éducation thérapeutique de certains patients?
On a mentionné à plusieurs reprises les approches cognitivo-comportementales peuvent être utilisées dans beaucoup de pathologies, maladies chroniques. Et notamment dans l'obésité et le diabète, on les utilise depuis plus de 10 ans. C'est une façon simplifiée, je vais le dire. On cherche qu'est-ce qui déclenche une frénésie de manger. Et quel est le stress de départ, et ensuite on regarde avec le patient quelles sont les stratégies qu'il pourrait mettre en place autres que de boire ou de manger ou de fumer, etc. Donc c'est des approches qui paraissent faciles, mais ça prend un temps énorme parce qu'il y a toutes ces distorsions cognitives, toutes ces pensées négatives, et ça c'est tout un travail probablement qui devrait être fait par des psychologues. Donc l'art-thérapie, en complément avec cela, c'est une très très bonne, c'est une très bonne approche.
Autre intervention?
Je voudrais comprendre mieux la place de l'expression par la parole dans une démarche d'art-thérapie.
Donc la place de la parole dans une démarche d'art-thérapie. Quand on est dans un processus créatif, on met à l'extérieur de soi, par la mise en forme, ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Souvent on dit que être créatif, créer, c'est thérapeutique en soi. Toutefois, je pense que pour permettre le retour et pour que le patient puisse se réapproprier son œuvre et ce qu'il a exprimé dans cette mise en forme, il est important qu'il puisse y mettre des mots et donner un sens à ce qu'il, fait. Puisque l'art thérapeute n'est pas là pour interpréter son travail, mais pour l'accompagner, à analyser et à l'aider à élaborer, à mettre des liens sur ce qu'il a fait et comment il peut faire ses liens avec son quotidien. C'est pour ça que, pour moi, il est important de laisser une place à la parole. Tous les art thérapeutes ne travaillent pas comme ça, mais voilà, après on fait des va-et-vient dans ces différentes approches. Je vous en prie.
Oui, je voudrais revenir sur les patients ressources pour indiquer qu'il y a quand même tout un mouvement international autour des patients tuteurs, patients ressources, patients experts. Bon, je voudrais déjà signaler qu'il est dans certaines pathologies très particulières, l'éducation est faite par les patients. Je pense par exemple à l'Association française des colostomisés. Ce sont des patients qui viennent éduquer d'autres patients qui ont reçu une colostomie. On peut aussi considérer par extension que les White Watchers représentent une forme de prise en charge de l'éducation par la communauté des personnes. Mais ce qui m'a frappé, c'est que a été présenté dans un congrès récent auquel plusieurs ici ont participé à Budapest, a été présenté un travail de l'OMS justement sur le peer support, c'est sur l'utilisation du soutien dans les maladies chroniques par les pairs. Donc c'est un rapport d'un groupe d'experts qui a eu lieu à Genève en juin 2008 et il disait dans les recommandations de ce groupe d'experts de l'OMS que premièrement il n'était pas souhaitable de salarier les patients, il fallait qu'ils restent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des patients et pas des personnels de santé d'un autre niveau, et deuxièmement qu'en aucun cas les soignants ne pouvaient je dirais en quelque sorte, se défausser de leur responsabilité en matière d'éducation thérapeutique en le mettant à la charge de patients experts. Et là, il faisait allusion, je pense, à des programmes d'éducation thérapeutique sur le VIH en Afrique dans lesquels il n'y a plus une telle pénurie de soignants que finalement ça a été transféré, au fond, à des patients ressources, avec aussi des fois des problèmes que les patients ressources ne peuvent pas toujours répondre aux questions auxquelles les soignants, eux, sont habilités à répondre. Voilà, ça c'est en réaction à une question qui a été posée à propos du faut-il ou non salarier ou donner quelque chose aux patients. Alors donner aux associations, ça me paraît légitime. Donner aux patients, c'est une question qui est très discutée. Monsieur Saout, qui représente les associations de patients, lui, il a fait un forcing pas possible au cours des derniers mois pour dire non, c'est nous qui... voilà. C'est très débattu actuellement, cette question.
Juste pour dire que je pense que les associations de patients ne sont pas a priori, en France en tout cas, d'après ce que je suis un petit peu la matière avec le collectif interassociatif sur la santé, puisque l'Association française des hémophiles en est membre, et ne souhaite pas, à ma connaissance, que les patients experts, ressources, tuteurs soient rémunérés. En revanche, c'est vrai qu'elle travaille pour que les associations puissent recevoir des subsides pour pouvoir organiser ces actions d'éducation thérapeutique. Nous, notre choix à l'Association française des hémophiles, c'est d'avoir travaillé la complémentarité avec les soignants. On le souhaitait parce que justement notre histoire a été difficile et qu'on avait envie justement de travailler ce qui avait été séparé, mais de le faire autrement et de manière plus intelligente et plus active pour tout le monde, fondamentalement. Voilà. Et c'est donc notre positionnement. On aurait pu faire le choix de former des patients pour qu'ils interviennent en dehors des actions, en dehors des centres de traitement. Et ça n'a pas du tout été, mais ça a été très clair, ça n'a pas du tout été notre volonté. Voilà.
Une autre intervention ?
Vous avez signalé le changement de regard du soignant vis-à-vis du patient. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus à ce sujet ?
Je pense que quand on propose un espace de jeu comme celui de l'art-thérapie, on invite le patient à être en contact avec tout son univers émotionnel, imaginaire, dans la rêverie aussi. Et quand un patient malade chronique, ou quand il apprend un diagnostic, parfois la maladie l'enferme dans quelque chose d'inactif. Et je trouve intéressant, quand je parle du regard, c'est que le soignant a été aussi étonné, surpris de ce que le patient a pu réaliser ou dire à travers ses œuvres, de la manière où il a pu aussi exister dans cet espace autrement que d'être dans une relation classique, je dirais. Dans ce moment d'art-thérapie, je pense que on peut aussi valoriser le patient dans ce qu'il fait, dans ce qu'il met en place, dans ce qu'il réalise. Et je crois que c'est un échange dans ce que le soignant peut témoigner par rapport à l'œuvre, même s'il n'est pas dans un rapport esthétique de l'œuvre, mais de dire ben voilà, mais c'est, je suis surpris, touché. Enfin, je trouve que ça amène, il y a un objet médiateur. Hein? Et je pense que cet objet médiateur a aussi un rôle à jouer dans la rencontre entre le soignant, le soigné, et puis ben, ces deux sensibilités qui se rencontrent. Je pense que tout soignant qu'on est, on a tout aussi une sensibilité artistique, quelle qu'elle soit, qu'on peut aussi utiliser pour entrer dans la rencontre avec le patient et l'amener à se raconter. Comme nous, on peut aussi être amené à nous raconter en amenant une pièce de musique qu'on aime ou autre chose. Et je trouve que voilà, c'est vraiment changer de regard, apporter quelque chose différent dans cette relation. Est-ce que j'ai répondu ? En partie. Peut-être que tu aimerais amener quelque chose en plus par rapport à ça, ou comment ça t'a parlé, toi ?
Je suis art-thérapeute, hein, donc je trouve que c'est vraiment intéressant justement de pouvoir observer ce changement de regard. Tu as utilisé le mot valoriser, etc., comme si le patient était dévalorisé, comme si bien sûr. Hein, mais effectivement, moi j'ai pu observer ça dans les ateliers que je peux conduire, c'est qu'à chaque fois il y a comme une espèce de révélation qui se fait aux yeux du soignant, que ce patient-là a une vie interne, qu'il a une créativité qui peut se développer, qu'il est très vivant à travers son œuvre, et que il y a comme une espèce de surprise de la part des soignants. Donc, je crois que nous, ça nous étonne à chaque fois, ça, cette surprise que peuvent avoir parfois les soignants devant la création et les œuvres réalisées par les personnes qui sont soignées.
J'aimerais surenchérir par rapport aux ateliers qu'on a fait avec les soignants. Alors, c'est très impressionnant de voir l'intérieur de la créativité de collaborateurs ou d'étudiants, puisqu'on a travaillé avec des étudiants. Donc quand on dit qu'on est surpris, c'est pas, il faut pas le prendre mal. Ça veut dire qu'on est surpris, on est émerveillé. On pense bien que les gens ont quelque chose de fabuleux à l'intérieur, même quand ils sont malades. Mais c'est très impressionnant de voir des gens qui n'ont jamais fait de peinture ou de quoi que ce soit, qui sont capables d'exprimer des choses, quelque chose qui n'est pas forcément très joli à voir sur le premier plan, mais qui s'exprime de manière incroyable. Et ça permet de faire avancer le patient dans l'acceptation de son corps, l'acceptation de sa maladie, dans l'estime de soi, l'image du corps, etc.
C'est très impressionnant comme, comme outil complémentaire à l'éducation thérapeutique.
J'ai eu la chance en tant que soignant d'assister à une après-midi d'art-thérapie avec Christina. Et c'est vrai que même en tant que soignant, on arrive à se découvrir nous pour mieux découvrir les autres. Je pense que c'est très très enrichissant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui. Comme ça, je suis rhumatologue. Comment est-ce qu'on devient art-thérapeute ?
Pertinente question. Il y a des formations. Alors, il y a plusieurs formations en France. Je sais qu'il y a des formations universitaires. Je suis plutôt suisse, donc je vais parler de la formation suisse. Il y a des formations aussi données par des organismes donc reconnus de formation suisse, comme des hautes études sociales. C'est des formations continues sur 3-4 ans, ça dépend. Il y a actuellement toute une réorganisation autour des formations des art-thérapeutes, où il y aura toute une filière universitaire de type avec un diplôme de master, 3 ans plus une année de recherche clinique avec l'art-thérapie, et une autre filière qui se profile, qui est une filière professionnelle, qui va permettre à des gens qui auront eu un bac ou peut-être une formation professionnelle de base, faire une formation d'art-thérapie sur peut-être 6 ans avec des modules qui sont des modules bien sûr sur tout le processus artistique, mais aussi sur toute la psychopathologie, l'anatomie, enfin une grande palette de modules. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a des organismes, beaucoup d'organismes qui proposent de l'art-thérapie. Je crois que dans l'art-thérapie, il y a beaucoup de choses, on y met beaucoup de choses. Donc après, il y a un tri à faire. À l'époque, on pouvait devenir art-thérapeute en 2 week-ends. Bon, voilà. Après, je pense que chacun va choisir son organisme et sa manière de travailler. C'est des choses qui se discutent puisque c'est un métier qui est de plus en plus dans le milieu de la santé et du social. Donc ça se construit. Mais il y a de plus en plus d'institutions qui reconnaissent le diplôme d'art-thérapeute. À l'hôpital cantonal, nous sommes 5 art-thérapeutes dans différentes divisions, en pédiatrie oncologique, en gériatrie et soins palliatifs, en maladies chroniques et aiguës. Il y en a une en psychiatrie et chez les adolescents qui sont en crise, à l'unité de crise pour les adolescents. Donc c'est un métier qui commence à trouver sa place.
Bien. Alors, on a tenu le temps. Je trouve que c'est bien parce que ça a quand même été un débat riche. On a essayé de multiplier les choses, mais on est dans le temps. On va arrêter là, mais je voudrais juste dire une petite chose avant la pause. Ce ne sera pas, moi, une conclusion sur l'art-thérapie, sur l'ensemble de ce thème. Je trouve que ça... Enfin, moi, j'aime bien l'espèce d'étonnement qu'a manifesté, par exemple, Alain Gollet en disant on se rend compte de la richesse qu'il y a. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les soignants devraient toujours avoir présent à l'esprit. Malheureusement, leur formation et l'urgence de leur travail leur fait oublier parce qu'ils sont concentrés sur une pathologie, mais ils ont un sujet avec toute la complexité, toute la richesse que ça veut dire. Et quelqu'un avec des potentialités qu'il faut jamais oublier, c'est-à-dire quel que soit... Moi, je suis patient aussi, c'est à ce titre-là que je parle, 38 ans de diabète et d'autres choses. Et il faut jamais le figer dans l'image qu'il donne de vous, qu'il donne de lui face à vous. C'est un processus, et c'est un processus, moi je dirais pas d'acceptation, mais d'appropriation de la maladie pour en faire quelque chose qui déborde la maladie, parce que c'est sa vie. Et le patient, c'est toujours un homme debout. Et c'est ce qu'a montré, je pense, l'exemple magnifique de ce qui se passe dans l'hémophilie. C'est-à-dire que c'est beaucoup à l'initiative des patients, c'est-à-dire du constat de l'échec malgré les progrès de la thérapeutique. Ça ne marche pas tant qu'il n'y a pas une vraie volonté du patient, non pas bien vouloir, mais vouloir ce qui est préférable pour lui. Et je pense que s'il y a la reconnaissance de ses connaissances expérientielles et de sa qualité de sujet, c'est-à-dire d'homme libre et debout, eh bien c'est déjà thérapeutique en soi.
Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci beaucoup. Nous faisons une petite pause avant la prochaine session de 10 minutes.